Plusieurs mesures économiques accompagnent l'accord Élysée-Oudinot. Des nouvelles positives pour la Nouvelle-Calédonie, selon Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, du budget, des finances et des comptes sociaux. Le FLNKS réaffirme, lui, son opposition à l'accord après avoir boycotté les discussions à Paris. L'État sera ferme face aux dérives sur Internet, en particulier à l'égard des élus présents à Paris pour les discussions. C'est ce qu'a rappelé la directrice de cabinet du haut-commissaire qui était notre invitée du matin. La météo avec une grande partie du territoire placée en vigilance orange, vent violent avec des rafales notamment sur la côte ouest. Dans le Pacifique, la lutte contre le trafic de drogue en Australie et en Polynésie française avec une saisie de 5 tonnes de cocaïne sur un navire. Le sport du tennis, le deuxième tour de l'Open d'Australie, les tricolores sont en difficulté aujourd'hui sur les courts de Melbourne. Et prochain combat le 7 février pour Cédric Do en kickboxing. Le Calédonien se prépare à défier l'un des meilleurs mondiaux de la discipline. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'État s'engage à signer un contrat de désendettement de la Nouvelle-Calédonie et donc travailler à la transformation de prêts en subventions. C'est l'une des annonces que l'on retient du texte consacré au volet économique et social qui accompagne l'accord Élysée-Oudinot. Charlotte Coulson.
Les discussions devraient commencer cette année et pour ce faire, le remboursement des prêts sera suspendu. En 2026 et 2027. Aujourd'hui, Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge de l'économie, du budget, des finances et des comptes sociaux, se dit satisfait de ces deux annonces.
Ça fait maintenant de nombreux mois qu'on demande des années blanches sur le remboursement des prêts entre 2026 et 2027. Ça a été accordé dans le cadre des discussions au sommet Élysée-Oudinot et on avait également demandé un travail sur la conversion des prêts en subventions. Là aussi, un contrat de désendettement pourra être mis en place dès 2026. Donc une double réponse favorable qui nous permettra notamment de financer plus largement les régimes sociaux et soutenir l'investissement en Nouvelle-Calédonie.
Et par ailleurs, l'État a également annoncé mobiliser une subvention de 60 millions d'euros, soit un peu plus de 7 milliards de francs, dédiée aux comptes sociaux. Le budget de la Nouvelle-Calédonie devrait donc être réajusté au mois de février.
Ce n'est pas une surprise. Le FLNKS rejette l'accord de l'Élysée-Oudinot signé hier matin à Paris. Son président, Christian Théin, s'exprime dans un long communiqué dans lequel il explique, je cite, « qu'un pseudo-accord imposé sans le peuple kanak ne peut engager l'avenir de notre pays ni fonder la démocratie ». Jean-François Baudin.
Opposé à l'accord de Bougival, le nouveau FLNKS a boycotté les discussions à Paris en début de semaine. La prise de position de son président n'est donc pas une surprise. Christian Théin écrit qu'un accord sans le peuple autochtone n'a aucune légitimité et il parle même de mascarade avant de critiquer point par point les clarifications apportées à l'accord en début de semaine. Le texte fait la promotion de l'hyper-provincialisation qui est dangereuse pour l'unité du pays, écrit Christian Théin. Il estime encore que le pseudo-accord, comme il le nomme, repose sur un chantage économique et financier qu'il ouvre la voie au dégel du corps électoral. Il accuse enfin l'État d'avoir rompu le dialogue alors qu'il dit que le FLNKS ne l'a jamais refusé. Notre position est sans ambiguïté, conclut le président du nouveau FLNKS. Nous ne reconnaissons pas ce pseudo-accord et ne l'accepterons jamais. Fin de citation.
Le message de fermeté de l'État face aux dérives sur Internet. Le président de la République et la ministre des Outre-mer ont salué le courage des élus présents à Paris pour les discussions politiques, d'autant plus que certains sont menacés, notamment sur les réseaux sociaux. L'État a mis en place une cellule pour veiller à l'ordre public numérique. Ces dernières 48 heures, le Haut-Commissariat a saisi le procureur de la République à deux reprises, en vertu de l'article 40. Anaïs Saïd Mansour, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, était notre invitée ce matin pour évoquer ce sujet. Elle condamne ces faits.
C'est absolument inacceptable aujourd'hui que des élus soient menacés pour leur action sur les réseaux sociaux. Et on observe en effet ces derniers jours une hausse assez importante de propos à caractère haineux, diffamatoire, voire incitant à la violence sur les réseaux sociaux. Et les services de l'État sont particulièrement mobilisés afin de faire respecter la loi.
Ce sont principalement les élus qui sont visés ?
Pas uniquement, en fait. On a parfois des groupes d'individus qui sont ciblés, des appels à la violence gratuits. Il faut bien comprendre comment ça peut créer un environnement délétère, et notamment délétère pour le débat public, délétère pour la sécurité des personnes, et ça peut aller très loin.
Anaïs Haït-Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire, tient à rappeler que ce ne sont pas des actes anodins et que les auteurs et administrateurs de pages sont tenus pour responsables des propos illicites.
Il y a eu un certain nombre de poursuites, y compris l'année dernière, qui peuvent aller jusqu'au placement en garde à vue et au déferrement. Moi, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'être dans l'impunité, parce que beaucoup d'auteurs de ces contenus illicites étaient pour certains des primo-délinquants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire, parce qu'ils pensaient que sur les réseaux sociaux, l'anonymat, la dématérialisation permet de diffuser des propos haineux et illicites. J'en appelle à la responsabilité, même si on publie de façon anonyme, on peut devoir rendre compte de ce qu'on publie et de ce qu'on diffuse auprès de la police, de la gendarmerie et de la justice. Il y a trois responsabilités pénales sur la diffusion de contenu haineux. Il y a la responsabilité de l'auteur du contenu, il y a la responsabilité de l'administrateur de la page publique. Même sur Facebook, quand vous administrez une page publique, vous êtes comme un directeur de publication, vous devez modérer vos contenus. Et enfin, il y a la responsabilité des plateformes, dit les GAFAM, Facebook, Twitter, Instagram. Dès lors qu'il y a un contenu qui est haineux, les plateformes sont tenues de le supprimer.
Les internautes sont invités à signaler les contenus haineux pour préserver un espace numérique respectueux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Tout d'abord, la réponse à notre question d'hier. À un mois de la rentrée scolaire et après un nouvel acte de vandalisme à Dimbéa, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut renforcer le dispositif de sécurisation des écoles. Ils sont 32% à penser que ce n'est pas la peine. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la signature de l'accord de l'Élysée-Oudinot qui apporte des précisions à l'accord de Bougival? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1. Si vous ne l'êtes pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Un rendez-vous d'antenne. Élysée Bougival, un accord global qui va permettre à la Calédonie de marcher sur ses deux jambes institutionnelles et économiques, a rappelé la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Et c'est bien son volet économique que nous scruterons demain dans les Jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu. Que contient-il? Va-t-il permettre à la Calédonie de se relever économiquement? Quatre invités seront autour de la table, autour de Jean-François Baudin, Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC, et Jean-Marc Burette, celui de l'USOINC, Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF, et Christophe Dautieux, le président de la CPME.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le gouvernement souhaite mieux encadrer l'habitat calédonien. Un avant-projet de loi du pays a été présenté aujourd'hui en séance hebdomadaire. Un code de l'habitat autonome pourrait être créé, Charlotte Coulson.
L'habitat est une compétence des provinces, mais la Nouvelle-Calédonie souhaite poser un cadre et mettre en place une politique publique de l'habitat partagé. Le texte présenté aux membres du gouvernement prévoit donc plusieurs mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des locataires ou même améliorer leur confort de vie, comme l'explique Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
La partie logement et habitat, c'est une compétence qui est compliquée en Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de compétences avec un millefeuille administratif assez large. Et donc, la Nouvelle-Calédonie est venue poser un code de l'habitat qui prévoit un certain nombre de normes, notamment de soutien au pouvoir d'achat des Calédoniens, avec un encadrement sur les cautions, la possibilité de le verser en deux fois et de les récupérer plus vite quand on lâche son appartement, mais également des mesures sur les relations entre le bailleur et également la sécurité des différents logements, avec une amélioration aussi de la performance énergétique dans ces logements.
Et au cours de cette même séance hebdomadaire, un arrêté a été pris. Il concerne l'économie sociale et solidaire. Cette semaine, une proposition de délibération a été présentée en séance publique au Congrès visant à créer un haut conseil de l'économie sociale et solidaire. Le texte a été renvoyé en commission, jugé prématuré. En cause notamment une méconnaissance des acteurs de l'ESS, surtout depuis les émeutes de mai 2024. Aujourd'hui, l'arrêté pris par le gouvernement vise donc à structurer l'ESS. Un agrément doit être mis en place pour les entreprises et les associations qui respectent certains critères, nous a dit Naya Ouattéou, membre du gouvernement en charge de la structuration de l'ESS.
Cet arrêté qui met en place l'agrément va permettre à ces structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire de pouvoir être pleinement reconnues en répondant bien sûr à des critères qui sont ceux qui sont identifiés par la loi, en l'occurrence la gouvernance partagée, la lucrativité limitée et puis la redistribution en interne pour une meilleure inclusion dans le cadre de ce qui fait aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Cet agrément, il permet cette sécurité juridique pour ces structures et en même temps une plus grande lisibilité et un accompagnement qui sera fait de par les directions du gouvernement. On a besoin de savoir aujourd'hui ce que représente l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie. Ces agréments vont être des données chiffrées très concrètes qui vont pouvoir accompagner le gouvernement dans sa stratégie de mise en œuvre en matière de structuration de l'économie sociale et solidaire.
Et en plus de cet agrément, une étude de l'Agence française de développement sera lancée dès la semaine prochaine pour identifier les priorités des structures de l'ESS. Elle viendra compléter l'étude déjà réalisée par l'AFD en 2021.
Il est 17h passé de 55 minutes. Une pause publicitaire dans ce journal avant de voir la météo et les vigilances en cours sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Info soir, Michael Juleski.
À la météo, il va falloir prendre son mal en patience avant le retour du soleil. Une nouvelle dépression s'approche de Belley par le nord-ouest. Conséquence, le vent va se renforcer sur tout le territoire et avec lui, des pluies localement fortes, Léana Colombo.
Et c'est pour cela que dès ce soir, 21h, 24 communes seront placées en vigilance orange, vent violent. Le reste est en vigilance jaune, vent violent, forte pluie orage. Les pluies toucheront dans un premier temps ce soir la pointe nord, puis la côte est en seconde partie de nuit. Des averses qui pourront effectivement s'accompagner de rafales jusqu'à 85 km/h. Le minimum dépressionnaire devrait ensuite toucher demain matin le sud-ouest de la Grande Terre. Myrène Chou et Yirabid est chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Avec le passage du minimum en cours de journée le long de la côte ouest, on va assister à un renforcement du vent de nord-ouest tout le long de la côte ouest jusqu'à la région de Nouméa demain en cours d'après-midi. Ce vent, il va se renforcer au passage du minimum et au fur et à mesure que le minimum progresse, à l'arrière, le vent va se calmer. On va retrouver un vent un petit peu plus calme, orienté à l'ouest, autour d'une quinzaine de nœuds. Avec ce minimum qui circule, on pourra quand même avoir des pluies associés, avec des valeurs qui sont quand même peu conséquentes. C'est pour ça qu'on reste en vigilance jaune, précipitation. Mais localement, elles pourront donner quand même des cumuls à surveiller. Quoi.
Bonne nouvelle pour la partie nord du territoire. Quelques éclaircies devraient faire leur apparition. Une couverture nuageuse persistera toutefois dans le sud-ouest et le vent faiblira demain.
Ce déplacement du minimum, là, le long de la côte ouest demain, on va retrouver probablement du vent plus calme et la fin des pluies et peut-être quelques éclaircies déjà dès la mi-journée sur l'extrême nord. Et au fil du déplacement de ce minimum, on va retrouver à l'arrière cette amélioration qui va se poursuivre sur la côte ouest. On peut déjà se dire qu'on va sortir de cette zone de vent fort probablement dès demain, fin d'après-midi. Il y aura encore des rafales probablement sur le sud-ouest et l'île des Pins. Mais a priori, on devrait probablement sortir de la vigilance orange demain en soirée.
Dans un communiqué, la sécurité civile appelle la population à la vigilance. La DSCGR conseille aux Calédoniens de se tenir informés de l'évolution de la situation via les sites internet ou les pages Facebook de la sécurité civile et Météo France NC. Parmi les consignes rappelées, limitez vos déplacements, évitez les secteurs forestiers, limitez votre vitesse sur la route, rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés, ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai et ne vous promenez pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages. Enfin, prévoyez des moyens d'éclairage de secours.
Et en attendant, les conséquences de la mauvaise météo se font toujours ressentir.
Depuis hier soir, le réseau Enercal subit des coupures d'électricité sur la côte Est et dans le Nord. Ce matin, 2571 clients étaient encore privés de courant. Ce soir, 1814 d'entre eux ont pu être réalimentés grâce à l'intervention des équipes sur le terrain. À 17h, le courant n'était toujours pas rétabli pour 757 clients sur les communes de Yengen, Touo, Point-Dimier, Wailou et Kwawa. Quant aux personnes concernées à Poya et Wegwa, toutes ont été réalimentées. D'ici ce soir, 440 clients supplémentaires devraient de nouveau avoir l'électricité. Et à Point-Dimier, les équipes techniques de la mairie travaillent toujours à rétablir la distribution d'eau. De nombreux administrés du centre du village sont touchés depuis hier soir par une coupure. Le problème a été résolu dans certaines habitations. D'autres devront attendre cette fin d'après-midi, voire le début de soirée.
Et notez que nous reparlerons demain matin des différentes consignes de sécurité en cas de vigilance orange sur le territoire. Le lieutenant Philippe Boimage, chef du service opération et logistique par intérim à la sécurité civile, sera notre invité du matin à 7h30. L'actualité dans le Pacifique. Les pays de la région poursuivent leur lutte contre le trafic de drogue. La police fédérale et la police aux frontières australiennes ont félicité les autorités polynésiennes. Elles ont en effet arraisonné en pleine mer un navire qui transportait 5 tonnes de cocaïne. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cet arraisonnement, qui a eu lieu au large de Tuamotu, dans la zone économique exclusive de Polynésie française, a été conduit par la marine nationale sur un navire battant pavillon togolais qui avait quitté l'Amérique centrale courant décembre. À son bord ont été découvertes près de 5 tonnes de cocaïne, visiblement destinées au marché australien. Nous tenons à remercier nos partenaires de Polynésie française pour leur travail exceptionnel, a déclaré un porte-parole de la police fédérale australienne dans un communiqué. Un narco-sous-marin transportant près de 2 tonnes de cocaïne a quant à lui été stoppé par la police fidjienne à Tavua, environ 90 km au nord-ouest de Nandi. Ce raid est le fruit d'une collaboration intense entre les forces de l'ordre locales et étrangères, a déclaré le directeur de la police fidjienne, le commissaire Tundravu, lequel a précisé que la police fédérale australienne participe également à l'enquête en cours. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h passé des 1 minute, une dernière pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après pour voir tout le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, le sport avec Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, le tennis. On joue actuellement le deuxième tour de l'Open d'Australie. Des Français et des têtes de série chez les hommes comme chez les dames sont sur les courts, Léo Fichaud.
Oui, du beau monde ce mercredi sur les différents courts du Melbourne Park. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Carlos Alcaraz ou encore Alex de Minaur. Mais aussi quatre tricolores, Alexandre Muller, Corentin Moutet, Elsa Jacquemot et Quentin Alice. Ces deux derniers qui malheureusement se sont inclinés en milieu de journée. La Française Elsa Jacquemot, qui a été battu en 2-7, 6-1, 6-2 par Yulia Putintseva. De son côté, Quentin Alice a remporté le premier set contre Daniil Medvedev avant de sombrer, défaite en 4-7, 7-6, 3-6, 4-6, 2-6. La bonne nouvelle vient pour l'instant de Corentin Moutet. Le mieux classé des tricolores encore en lice est en train de mener sur Michael Zhang, issu des qualifications. Et je le rappelle, demi-finaliste du Challenger de Nouméa. Le Français mène 2-7 à 1, 3-6, 6-1, 6-3. Il mène dans le quatrième set 1-0 pour lui face à l'Américain qui est diminué depuis quelques jeux déjà. Enfin, dans la soirée, dès 18h30, défi de taille pour Alexandre Muller qui sera opposé au troisième mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Dans les autres rencontres, on notera notamment la qualification de Carlos Alcaraz 3-7-0 sur l'Allemand Yannick Hanfmann, et la qualification chez les dames, du coup, de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka 2-7-0 sur la chinoise Bai. Demain, toujours au deuxième tour de l'Open d'Australie. Varvara Gracheva sera opposée à la tête de série numéro 5, la Kazakh Elena Rybakina. Arthur Géa, qui avec sa victoire au Challenger de Nouméa, reste sur 9 victoires consécutives en 2026. Il jouera contre Stanislas Wawrinka, ex numéro 3 mondial et vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem.
Et puis on reste en Australie pour parler cyclisme. Après le prologue hier, la première étape du Tour Down Under s'est courue aujourd'hui, 120 km autour de Tanunda, une arrivée massive. Le Danois Lund Tobias Andresen a fait coup double. Il s'est imposé au sprint et s'est emparé du maillot orange de leader. Pierre Gautrat, le premier Français au général, est 8e à 6 secondes du leader. Demain, la deuxième étape entre Norwood et Ureidla sera longue de 148 km. Du football dans la région avec la deuxième journée de l'OFC Pro League. À 13h, le Tahiti United et ses trois Calédoniens devaient affronter les Papous du BNG et Carré. On rappelle que Germain Iwegené, Potin Poma et Joseph Attalé jouent sous les couleurs du Tahiti United. Le match a été reporté en cause les mauvaises conditions météo sur Auckland. Pour rappel, hier, les Néo-Zélandais d'Auckland, justement, s'étaient imposés sur le Vanuatu United 3-1. En kickboxing, Cédric Do se prépare à défier le numéro 3 mondial dans la discipline. Mo Amisha, 42 victoires pour 2 défaites, dont 31 succès par KO. Le Calédonian Fighter va sans doute vivre la plus grande échéance de sa carrière dans le stade de Gelredome. C'est à Arnhem, aux Pays-Bas. Cédric Do qui s'entraîne d'arrache-pied pour ce rendez-vous mondial.
Je pars dimanche 25 janvier, pour un combat, sans doute un des plus gros combats de ma carrière, aux Pays-Bas. Ce sera dans un stade de foot devant 30 000 personnes, et ce sera contre le numéro 3 mondial, Amisha, c'est un Marocain. Comme je dis à chaque combat, on étudie, mais on adopte quelques détails dans la stratégie qu'on met en place, mais il faut toujours travailler aussi avec nos forces et travailler un peu sur ses faiblesses. On a vu quelques failles, mais ça reste un combat. Tout ce qu'on met en place, des fois on arrive sur le ring et on n'arrive pas à le ressortir. Tout est différent quand j'arrive sur le ring. Je me suis fait des schémas dans la tête sur le combat. J'ai imaginé des scénarios, mais ça se passe jamais vraiment comme on l'imagine. On verra le jour J. Après, comme je dis à chaque fois, on n'est pas à l'abri de prendre un coup dès le début aussi. Et donc le combat, il sera pas le même après.
Et Cédric Do qui sait qu'il faudra se méfier de cet adversaire particulièrement dangereux.
Déjà, c'est un adversaire qui a l'air d'être très humble. Il a une grosse communauté qui le soutient. Je sais que je suis clairement pas à domicile. J'ai jamais été à domicile, mais là encore moins. Je vais arriver vraiment là où il y a son public. Surtout le stade qui sera présent. Je pense que la moitié sera des Marocains. Ça va être tout ça qu'il faudra prendre en compte. Sur les combats que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui, je pense, sur tout le roster du Glory, c'est celui qui a le meilleur premier round. C'est-à-dire que sur un premier round, il est capable de mettre KO n'importe qui, à n'importe quel moment. Même s'il ne le met pas KO, il gagne souvent son premier round. Dans 99% des cas, il gagne son premier round parce qu'il part d'entrée sur un très gros rythme.
Et Cédric Do qui peut ouvrir une nouvelle page de sa riche carrière à tout juste 30 ans et il espère que le public sera derrière lui.
Je viens de loin, donc du coup j'ai à cœur de mettre, comme je dis à chaque fois, la Calédonie sur la carte du kickboxing mondial. Et ça fait partie des étapes pour le faire. Je sais que si ce combat, je le gagne, la suite elle sera vraiment pas la même. Je rentrerai dans une autre dimension encore. Je pense que j'ai atteint des belles choses. Mais là, ça me ferait entrer dans le cadre des meilleurs sportifs mondiaux dans ma pratique. Je tiens à remercier mon sponsor principal, c'est Certis Major. Quand on parle de niveau professionnel, moi, je sais que je travaille à côté. Je remercie aussi surtout tous les Calédoniens. Quand je marche dans la rue, il y en a qui me reconnaissent. Et c'est grâce aussi à ce travail de médias que vous faites. Je vous remercie, vous. Je remercie tous les Calédoniens qui me soutiennent et qui continuent à me soutenir. Merci pour la force. Et je pense que dans cette période, on en a besoin.
Et on l'encourage évidemment, Cédric Do qui s'envolera pour l'Europe donc dimanche prochain en vue de ce combat prévu le 7 février. Ce sera à l'occasion du Glory 105 aux Pays-Bas.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Il séduit de plus en plus de sportifs. L'Aerox a le vent en poupe depuis plusieurs mois et le phénomène n'épargne pas la Nouvelle-Calédonie. De plus en plus de salles de sport sur le territoire proposent désormais des entraînements dédiés à cette course hybride. Mais pourquoi l'Aerox connaît-il un tel succès, Léana Colombo ?
Alors, parlons déjà du nom Aerox. Il ne s'agit ni d'un acronyme, ni d'un mot anglais. C'est tout simplement une contraction du mot hybride où on a rajouté le suffixe rox en anglais pour évoquer la performance. L'Aerox est né en Allemagne en 2017 et est désormais une marque déposée qui fait fureur partout dans le monde. En avril 2025, un événement Aerox organisé à Paris a rassemblé 12 000 participants et près de 15 000 spectateurs, preuve d'un engouement croissant aussi bien chez les amateurs que chez les sportifs confirmés. Ce sport combine endurance, force et mentale et repose sur un format unique, des kilomètres de course entrecoupés d'ateliers physiques, explique Caroline Favier, coach sportive chez The Box NC au Quartier Latin.
C'est une compétition qui consiste en fait à alterner un travail de course et un travail d'exercice fonctionnel. Alors, l'exercice fonctionnel, c'est peut-être pas parlant pour tout le monde, mais le functional training, en fait, c'est des mouvements qui vont nous aider de reproduire les gestes de la vie quotidienne. C'est ça, le functional training, en fait. Par exemple, le carry farmer, c'est quand dans la compétition Aerox, en fait, tu vas porter des poids. Je me baisse, je me relève. Les burpees, c'est travail au sol, travail debout. C'est ça, le functional training. Transporter, pousser, tirer, c'est ça le travail fonctionnel. Carry, ça va t'aider à porter tes sacs de course. Le burpees, ça va t'aider, ben, tout bête, tu fais un cours de ski, les trois quarts des personnes qui font du ski, ils n'arrivent pas à se relever. Donc tu vois, ça t'aide aussi à muscler les muscles propres pour te relever.
Souvent comparé au crossfit, l'aerox s'en distingue pourtant. Le crossfit propose des entraînements très variés qui changent quotidiennement, tandis que l'aerox repose sur un parcours standardisé, identique pour tous les participants. Un format qui séduit. À la salle F45 en centre-ville de Nouméa, près de 150 personnes s'entraînent chaque jour pour préparer ce défi. Des sportifs en quête de dépassement de soi comme Andrea, adhérent de la salle, attiré par ce nouveau challenge.
Je pense que l'aerox, c'est une discipline là qui explose, parce qu'en fait c'est une course, c'est un objectif fixe, tu prends rendez-vous avec une date, et après c'est un sport vachement hybride. Moi, je viens tous les jours à F45 m'entraîner, et chaque cours est différent, et en même temps chaque cours est bénéfique pour l'aerox, parce que du coup tu peux faire de la muscu, donc du renforcement, tu peux faire du cardio pur, et après le vendredi aussi les cours spécifiques à l'aerox. J'adore avoir des objectifs, et après l'aerox, en fait tu vises un chrono, donc le but c'est tout le temps d'améliorer ton chrono. Donc en fait c'est un sport où c'est toi face à toi-même et face à ton chrono. Et à chaque fois, tu vas aller chercher, gratter des secondes, chercher des minutes sur un record personnel, sur ces courses.
La prochaine compétition internationale d'aerox se tiendra en Nouvelle-Zélande, à Auckland, le 27 janvier prochain. En Australie, un autre rendez-vous est prévu le 12 avril à Brisbane. Et plusieurs Calédoniens ont déjà pris leur billet pour y participer.
Il est 18h passé de 11 minutes. On termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et si vous nous rejoignez, nous avons déjà évoqué plus tôt dans ce journal, évidemment, les conditions météorologiques et les vigilances en cours. Bonsoir Pierre, on refait un point avec vous sur les couleurs du ciel.
Merci, vigilance orange, vent violent, Bélep', le nord-est de Poum à Touo inclut la côte ouest de Koumac au Mont-d'Or, Yaté de l'île de Yaté et l'île des Pins. Cette nuit et demain, vigilance jaune, vent violent ailleurs sur le territoire. Vigilance jaune, forte pluie et orage sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Vigilance jaune, forte houle sur Bélep', la côte ouest de Poum au Mont-d'Or dès cette nuit et pour demain. Cette nuit, une seconde perturbation glissera du nord vers le sud au large de la côte ouest. Le temps restera souvent pluvieux avec des pluies parfois soutenues attendues sur la pointe nord en première partie de nuit, puis sur la côte est en seconde partie. Ces précipitations pourront être ponctué d'un coup de tonnerre. Sur l'extrême nord, puis sur l'ensemble de la moitié nord, le vent de nord-ouest se renforcera nettement, 25 à 30 nœuds, avec des rafales de 35 à 45 nœuds, soit jusqu'à 85 km/h. Ailleurs, le vent de nord-ouest soufflera autour de 15 nœuds. Les températures évolueront peu, entre 24 et 26 degrés, dans une ambiance assez lourde. Demain matin, le minimum dépressionnaire poursuivra son évacuation au large du sud-ouest de la Grande Terre. La couverture nuageuse restera importante, même si quelques éclaircies apparaîtront sur la pointe nord et le nord-est. Les pluies resteront fréquentes, mais tendront à s'atténuer progressivement d'ici la fin de la matinée. Le vent de nord-ouest se renforcera lors du passage au large de la côte ouest du second minimum, 20 à 25 nœuds en général, rafales proches de 40 nœuds. Sur la côte ouest, 25 à 30 nœuds, avec des rafales de 40 à 45 nœuds, soit jusqu'à 85 km/h. Côté marée, s'il y a des courageux, la marée sera haute ce soir vers 21h51. La marée basse sera en fin de nuit autour de 3h56 et la nouvelle marée haute en milieu de matinée vers 10h34. Et côté ciel, la lune sera montante en premier croissant avec une luminosité d'environ 4,9%.